j'explique comment se passe la soirée. Je médite 20-25 minutes. Ensuite, je développe un point du dharma, c'est-à-dire de l'enseignement. Et puis, questions-réponses, s'il y a des questions, s'il y a des réponses. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Dans quelques instants, vous vérifiez votre posture, vous placez votre corps en méditation avec la colonne vertébrale la plus droite possible. Pas de crispation dans le corps. On médite les yeux ouverts. Et essayez de ressentir dans votre corps la tranquillité, la stabilité de cette posture. Puis vous mettez de côté tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, que ce soit aujourd'hui, hier ou il y a une semaine, tout ce que vous allez faire en fin de soirée, demain, etc. Soyez dans l'instant présent, conscient de ce qui se passe dans l'instant présent, et tel que ça se passe. Pour les personnes qui méditent depuis peu de temps, ou qui découvrent la méditation, placez votre esprit sur un support de méditation tel que la respiration. Conscient que j'inspire, je suis conscient que j'expire. Donc premier point, le support. Mais ce peut être un autre support. Vous pouvez prendre un support visuel, un support mental. Et vous développez en même temps la vigilance qui vous permet de savoir si votre esprit est distrait ou non. Être distrait, cela veut dire perdre conscience du support choisi. Notre esprit a tendance à suivre tous les phénomènes qui s'élèvent. Dès qu'il y a une pensée, notre esprit se porte sur cette pensée et la suit. Et ensuite, il se porte sur une sensation, sur une perception, sur une formation mentale, puis à nouveau sur une pensée, etc. Donc il va fonctionner de la même façon, votre esprit va fonctionner de la même façon pendant la méditation. Mais simplement, nous prenons conscience de ce mode de fonctionnement. Nous prenons conscience de cet état de distraction. Et quand nous sommes conscients que nous sommes distraits, nous identifions l'objet de distraction. C'est par exemple une pensée. Et tout en l'identifiant, nous acceptons sa présence, donc aucune analyse, aucun jugement quant à la présence de cette pensée. Mais simplement, nous la lâchons, c'est-à-dire que nous ne lui accordons plus l'attention qu'on lui portait. Et quatrième point, alors on replace l'esprit sur le support. Et peut-être qu'en 20 minutes, il faudra eh bien, replacez l'esprit sur le support 500 fois, peu importe. Et pour les personnes qui ont l'habitude de méditer, essayez de méditer sans support, de demeurer simplement dans cet aspect connaissance de l'esprit, qui est conscient de l'ensemble des phénomènes et qui reconnaît en un instant la nature même de ces phénomènes, selon les trois caractéristiques que vous connaissez, leur impermanence, leur existence interdépendante, et que si vous les saisissez, il y a apparition immédiate de dukkha. Pour les personnes qui découvrent la méditation ou qui méditent depuis peu de temps, un point important dès le départ, c'est de ne pas créer un état méditatif quelconque. Parce que vous avez lu, parce que vous avez déjà peut-être entendu que le calme mental, eh bien, c'est un état qui ressemble à ça. Et puis maintenant, eh bien, quand on médite, on a l'intention, le projet de recréer cet état intérieur, ou de faire en sorte de méditer pour que cet état intérieur soit expérimenté à nouveau. Il faut simplement appliquer les instructions de la méditation. Méditer veut dire entraîner son esprit. Entraîner son esprit à être conscient de ce qui se passe, à voir les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire à ne pas trier s'il y a des phénomènes désagréables, ou alors ça je ne veux pas les voir, il faut vite qu'ils disparaissent, ou au contraire des phénomènes qui sont plutôt agréables, alors ceux-là, eh bien, je les entretiens et je les retiens. Quels que soient les phénomènes qui apparaissent à l'esprit, je suis conscient de leur présence, mais je les laisse passer et je ne me laisse pas entraîner par eux. Et quand on dit entraîner, se laisser entraîner par les phénomènes, ça veut dire les suivre, mais ça veut dire aussi les rejeter. Dans les deux cas, il y a ce qu'on appelle la saisie qui fonctionne, si vous voulez, dans cette attitude. Et il est indispensable de placer l'esprit à ce moment-là sur un support de méditation, de façon à développer cette vigilance et voir que notre esprit, toutes les 10 secondes, a tendance à être distrait, quoi. Et c'est normal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on décide de méditer que notre esprit, qui a été habitué à fonctionner comme ça, comme disent les textes depuis des temps sans commencement, tout à coup, il va se mettre à fonctionner autrement. Donc c'est tout à fait normal si ça nous semble difficile et si on a l'impression que nous sommes extrêmement distraits. Simplement, nous prenons conscience de notre état de distraction. Alors qu'en général, nous sommes distraits sans le savoir. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, il faut entraîner son esprit, appliquer encore et encore, qu'on ait envie, pas envie de méditer tous les jours. Eh bien, on fait son minimum dharmique, j'allais dire, hein, au moins 20 minutes par jour, quoi.
Voilà.
Par exemple. Et c'est cet entraînement de l'esprit qui, peu à peu, eh bien, va faire naître ce calme mental, parce que l'esprit va apprendre, va s'habituer, va s'entraîner à ne plus suivre, ou moins suivre dans un premier temps, les phénomènes, que ce soit les sensations, les perceptions, les pensées, les formations mentales. Voilà. Alors retenez ça. la nécessité de l'entraînement régulier. Voyez votre méditation, si vous avez envie de méditer et de goûter à la méditation, voyez votre méditation comme apprendre un instrument de musique ou comme apprendre un sport. Il va falloir faire vos gammes méditatives. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Et avant d'aborder le sujet de ce soir, je voudrais vous saluer de la part de Liliane. Hein, il y a des personnes qui connaissent Liliane Marguier, dont le fils, il y a 15 jours, est mort dans un accident de voiture au Panama. Hier soir, on a fait à Lyon un rituel pour avec elle, Jean et le père de Gilles et sa sœur pendant une heure. Et cet après-midi avait lieu l'incinération. Donc Liliane m'a dit que de vous saluer puisque la plupart d'entre vous ont reçu le mail apprenant cette nouvelle. Tout le monde s'est mis à pratiquer pour Gilles, pour Liliane, pour la famille, etc. Et elle a besoin du support de la Sangha. Donc elle vous remercie. Et de temps en temps, si vous pouvez avoir une pensée pour Gilles. Vous savez que le bardo, l'appel dharma, dure 49 jours. L'état post-mortem dure 49 jours. Voilà. Ça a été très pénible parce que le rapatriement du corps de Gilles depuis le Panama a pris 15 jours. Voilà, et puis cet été, j'ai relu des enseignements de Lama Yeshe. Lama Yeshe était un maître tibétain qui, de la lignée Gelugpa, donc c'est la lignée qui est directement rattachée au Dalai Lama, et c'est lui, c'est Lama Yeshe, et puis son disciple Zöpa Rinpoche, qui ont créé la plupart des centres Gelugpa en Europe et aux États-Unis. Le centre de Lama Yeshe en France, il se situe à Lavore, à côté de Toulouse. Et c'est Vajrayogini, le centre Vajrayogini. Et Lama Yeshe est décédé dans les années 80, à une cinquantaine d'années. Et c'est lui qui a repris naissance, vous savez, dans une famille espagnole. Hein, peut-être qui l'ont vu. On dit toujours le petit espagnol qui a 20 et quelques années aujourd'hui. Hein. Mais c'est Eusel Rinpoche, aujourd'hui. Voilà. Eusel Rinpoche, le tulku de Lama Yeshe. Et en relisant ces plusieurs enseignements de Lama Yeshe, j'ai été surpris par la modernité de ces enseignements. Et le premier enseignement, et je voulais commencer l'année avec ce thème-là, c'était « Pourquoi méditer ?». Pour lui, c'est très important que nous reposions régulièrement cette question, parce que notre enthousiasme du début, étant donné que méditer demande quand même un certain effort, qu'il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, et bien quelquefois l'enthousiasme du début peut s'émousser, et de temps en temps il faut revenir à cette question, mais qu'est-ce que je fais là ce soir, quoi ? Pourquoi est-ce que je médite ? Pourquoi est-ce qu'un jour je me suis intéressé au dharma, je me suis intéressé à cette voie ? Et pour certains d'entre nous, plus que nous sommes intéressés, nous sommes engagés dans cette voie. Nous avons pris refuge, nous avons décidé de vraiment suivre cette voie en considérant que cette voie correspondait ou répondait aux questions existentielles, métaphysiques, spirituelles que l'on se posait. Et c'est d'autant plus important de se reposer la question régulièrement parce que nous ne sommes pas d'un milieu social, d'un milieu familial qui nous a inculqué la méditation depuis notre enfance. Je ne crois pas qu'ici quelqu'un a des parents bouddhistes. Et si nous avons décidé de suivre cette voie, eh bien c'est parce que nous l'avons d'abord découverte. Nous l'avons un peu étudié, nous y avons réfléchi, et nous avons trouvé quelque chose qui vraiment nous motivait. Et quand une personne demande à prendre refuge, elle n'est pas contrainte par sa famille, elle n'est pas contrainte par son milieu social. Hein, elle le fait de son plein gré, et en général, c'est un moment qu'elle vit avec intensité, mais avec joie aussi, quoi. Et on trouve dans des centres du Dharma, je ne dis pas à Luce, hein, mais dans des centres du Dharma, on trouve des gens que vous savez, j'appelle les vieux routards du Dharma. C'est-à-dire que, il y a 20 ans, il y a 25 ans, bon, ils ont décidé de suivre le Dharma, de méditer, mais face aux difficultés, ben aujourd'hui, ouais, bon, puis je laisse aller, quoi. Ou alors, il y a d'autres personnes qui voient dans la méditation un moyen supplémentaire pour relaxer l'esprit, pour se détendre, donc pour avoir une expérience de mieux-être. Tant mieux si ça permet de se sentir mieux et de mieux vivre ce que l'on a à vivre dans notre vie. Il ne faut pas le nier. Mais ce n'est pas cela quand même le but. Le but ultime, l'objectif ultime de la méditation. Le but de la méditation, c'est la libération. Le Bouddha n'a pas enseigné la méditation simplement pour qu'on se sente mieux, quoi. Il a enseigné la méditation pour réaliser l'éveil. Pour qu'on réalise l'éveil. Donc, pour qu'on se libère. Et on se libère de quoi? De dukkha. Et dukkha, traduisez dukkha par peut-être inconfort plutôt que par souffrance, parce que on en a déjà beaucoup parlé, hein, mais toujours traduire dukkha par souffrance, on voit tout de suite la grosse souffrance morale, la grosse souffrance physique. Et si aujourd'hui on a passé une journée dans laquelle on s'est senti à peu près bien physiquement et à peu près bien moralement, on peut se dire ce soir, je n'ai pas rencontré dukkha. Or, nous avons rencontré dukkha, et plus d'une fois au cours de la journée. Parce que dukkha, c'est aussi la moindre insatisfaction. C'est le moindre inconfort. La moindre frustration. Les choses ne se déroulent pas comme je voudrais qu'elles se déroulent. Eh bien, ce que ça fait naître dans mon esprit, c'est ça, dukkha. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte que, depuis ce matin, nous avons rencontré dukkha plusieurs fois dans la journée. Hein. Et c'est très important de prendre conscience que, eh bien, dukkha est présent dans notre journée sous différentes formes, plus subtiles, quelquefois plus grossières et plus violentes et plus douloureuses, hein, mais que dukkha est omniprésent et que nous rencontrons dukkha, eh bien, à longueur de journée. Et prendre conscience de cela, c'est important parce que tout le dharma, tout le bouddhisme repose sur ce constat, sur cette prise de conscience, c'est ce qu'on appelle la première des quatre nobles vérités. On traduit mal la première des quatre nobles vérités quand on traduit que le monde est dukkha. En sanskrit ou en tibétain, ce n'est pas exactement ça. Ça veut dire que dans le monde, on rencontre dukkha, on expérimente dukkha. Et ça, c'est la première des quatre nobles vérités. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut nier aujourd'hui. Il n'y a pas une personne qui peut dire « Ah, moi non, moi je suis à l'abri de dukkha. Absolument, je ne rencontre pas du tout dukkha, quoi. » Nous faisons tous cette expérience. Donc la base sur laquelle repose notre pratique du dharma, hein, c'est quelque chose de très pragmatique et c'est une expérience, eh bien, que nous connaissons absolument tous. Mais le but de la méditation, c'est de se libérer de dukkha. Est-ce que vraiment nous avons envie de nous libérer de dukkha? Ou est-ce que, après tout, on accepte de ronronner dans dukkha tant que dukkha n'est pas très violent, quoi? Est-ce qu'on ne se satisfait pas, d'une certaine façon, de dukkha? Vous savez, sous forme de boutade, je dis souvent qu'un bouddhiste, c'est quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre, quoi. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et à un moment donné, il faut se dire, mais je veux mettre un terme à dukkha, je veux trouver un moyen pour me libérer, pour mettre un terme de dukkha. Et non seulement pour moi, mais pour tous les êtres aussi. Parce que personne n'a envie de souffrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se dit « Oh, ben c'est très bien si je souffre, quoi. Je décide, je fais des choix dans ma vie professionnelle, affectif, tous les choix que l'on fait dans notre vie, est-ce qu'on fait ces choix pour être malheureux, pour être triste, pour rencontrer la souffrance, ou est-ce qu'on ne fait quand même pas ces choix pour se dire « ça, ça va m'apporter le bonheur ». Donc cette quête du bonheur, c'est quelque chose qui est commune à nous tous. Et nous vivons pour ça. Alors, comme je dis souvent, tout le monde devrait être bouddhiste, quoi. Parce que si c'est ça l'objectif, la finalité du dharma, mais ça va dans le sens où tout le monde vit. Seulement quand on rencontre dukkha et que on a envie de se libérer de dukkha, faut-il encore comprendre la cause du problème? Parce que sinon on peut s'orienter vers une solution, vers une voie de libération qui n'en est pas vraiment une. Donc il faut trouver la cause de dukkha, d'où provient dukkha, par quoi dukkha apparaît dans notre esprit. Cela veut dire que nous devons observer notre esprit, que nous devons observer le fonctionnement de notre esprit. Vous avez des personnes qui pensent que méditer, c'est juste s'asseoir et être là, bien concentré sur notre support. J'inspire. Et la sagesse, alors? Et la connaissance? Tout l'aspect connaissance. Notre réflexion, notre discernement, notre sagesse, etc. Mais tout ça, ça doit faire partie de notre pratique. Méditative. Nous devons comprendre en quoi le fonctionnement de notre esprit provoque, ou est la cause de dukkha. Si nous ne faisons pas l'expérience de la cause de dukkha, nous sommes encore dans une certaine croyance. On veut bien se libérer de dukkha parce que des maîtres, parce que le Bouddha, parce que des maîtres aujourd'hui écrivent ou nous disent que l'éveil, c'est la libération de la souffrance, la libération de dukkha. Mais tant que nous ne sommes pas sûrs de cela, notre pratique, elle s'appuie sur une adhésion à cet enseignement, mais une adhésion qui n'est pas une expérience, une compréhension, mais une compréhension profonde, parce qu'on expérimente, et cette expérience, est une compréhension. Et notre pratique du dharma, elle doit s'appuyer sur cette expérience. En d'autres termes, est-ce qu'on en a vraiment marre de dukkha, quoi? Est-ce que nous méditons pour nous libérer de dukkha? Et lisez les biographies des maîtres du passé. Ça a été cet objectif de chercher cette libération. Le Bouddha a montré que c'était possible. Ils se sont dit, mais ce que le Bouddha a réalisé, cette libération-là, mais je veux le réaliser. Je veux y parvenir moi aussi. Je veux mettre un terme à dukkha. Et quand je mettrai un terme à dukkha, sachant comment mettre un terme à dukkha, je pourrai montrer le chemin qui conduit à cette cessation. Et ça, c'est toute l'activité du bodhisattva. Parce que personne ne pourra mettre un terme à notre dukkha à notre place. Et il n'y a que nous-mêmes qui pourrons mettre un terme à dukkha. Pensez bien que si un être éveillé aujourd'hui pouvait transformer notre esprit, donc faire ce travail à notre place, bien entendu qu'on serait tous Bouddha et tous libérés de la souffrance. Non. Quelqu'un qui a réalisé l'état de Bouddha, qui a mis un terme à dukkha, ne peut que montrer le chemin. C'est tout. Et ça, c'est à nous d'en être bien conscient et de voir que c'est ce fonctionnement de l'esprit qui fait naître dukkha. Alors, ça veut dire que, on parle beaucoup de ça, mais il n'y a pas d'autre objectif à notre pratique de la méditation. Quel que soit le moyen que vous utilisez, vous pouvez utiliser tous les moyens, les 84 000 moyens que le Bouddha a enseignés, si vous les connaissez tous, Vous pouvez aussi tous les essayer et les pratiquer, que ce soit type zazen, que ce soit type Theravada, que ce soit type Vajrayana avec mantra, visualisation. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme moyen, à partir du moment où cela vous permet de voir, de comprendre le fonctionnement de votre esprit et en quoi ce fonctionnement eh bien, fait naître dukkha dans votre esprit. De comprendre que ce fonctionnement, eh bien, c'est la clé de votre souffrance. Que la clé de votre souffrance, elle se trouve dans ce fonctionnement, dans votre fonctionnement, dans votre esprit. Et non pas fondamentalement dans les circonstances, dans les situations, dans l'autre qui m'a regardé de travers, dans l'autre qui m'a dit quelque chose de désagréable, dans l'autre qui n'agit pas comme je voudrais qu'il agisse. Ce ne sont pas les phénomènes qui, tels qu'ils sont, alors que je voudrais qu'ils soient autrement, eh bien, apparaît là dukkha. Mais dukkha ne vient pas de ces phénomènes tels qu'ils sont. C'est de comment mon esprit fonctionne par rapport, ou comment mon esprit réagit par rapport à ces situations, par rapport à ces phénomènes, par rapport à l'autre qui m'a regardé de travers, etc. C'est-à-dire que la clé de dukkha, eh bien, est dans notre esprit. Et quelle est la clé de dukkha? Quel est le mot qui caractérise la clé de dukkha pour les anciens? On ne parle que de ça depuis 2 ans. Saisie. C'est la saisie. C'est le fait de devenir un, de s'identifier au phénomène qui s'élève dans l'esprit. Et ça, nous devons absolument en faire l'expérience, en avoir une compréhension, une certitude, parce que j'ai observé que lorsque je saisis tel ou tel phénomène qui s'élève dans mon esprit, eh bien, il y a dukkha immédiatement qui apparaît. Et que donc, la seule responsable de ma souffrance, de dukkha, eh bien, c'est la saisie. Et ça, nous devons absolument en être sûrs, parce que le jour où nous n'avons plus de doute là-dessus, alors toute notre pratique, quel que soit le moyen que l'on va utiliser, va viser à déraciner cette saisie. La saisie est le véritable poison de l'esprit. Et quand on utilise une méthode pour déraciner cette saisie, la méthode que l'on utilise aujourd'hui, ça ne sera pas forcément la méthode que l'on va utiliser demain. Là aussi, il faut savoir utiliser le moyen en fonction de notre connaissance quant au fonctionnement de notre esprit. De quoi a besoin, de quel moyen a besoin mon esprit pour me libérer de ce que je suis en train de saisir dans telle ou telle situation. Et ça, Rinpoche le rappelait lors d'un séminaire, c'était pas le dernier, mais il nous disait, mais quel que soit le moyen que vous utilisez, ne vous dites pas, ça c'est, alors que je suis un pratiquant du Vajrayana, ça c'est un moyen du Theravada, ou ça c'est un moyen du Sutrayana. Tous les moyens ont été enseignés par le Bouddha. Si c'est le moyen qui vous permet de vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant présent, alors c'est le moyen qui convient. Et ne vous posez pas des questions, ah non, je devrais faire que ça comme pratique. Choisissez le moyen qui vous est le plus facile dans votre façon de vivre aujourd'hui, dans les conditions que sont les vôtres, où vous vivez dans votre quotidien. Je ne suis pas sûr que de faire un yoga tibétain style Tummo ou je ne sais pas quoi, ça vous sera vraiment très possible en ayant 6 ou 8 heures de travail et 2 enfants à la maison. Choisissez un autre moyen. Faites travailler votre intelligence, votre discernement, votre réflexion pour trouver le moyen eh bien, qui convient à votre mode de vie. Et ça fait partie de l'intelligence de notre pratique. Ça se base là encore, c'est est-ce que j'ai envie vraiment de transformer mon esprit et de travailler sur mon esprit. Lama Yeshe explique dans cet enseignement que le critère qui nous permet de savoir si vraiment nous pratiquons. C'est celui de noter si nos facteurs perturbateurs sont moins puissants. Depuis que je pratique la méditation, est-ce que ma colère a diminué? Est-ce que mon orgueil, ma jalousie, vous prenez les cinq facteurs, les cinq poisons de l'esprit qu'on appelle, hein, l'avidité ou le désir, cette espèce d'attachement là, je veux absolument quelque chose. Est-ce que l'aversion, est-ce que l'indifférence, est-ce que la jalousie et est-ce que l'orgueil ont tendance à diminuer? Ils n'ont pas encore disparu, mais est-ce qu'ils ont tendance quand même à diminuer? Si vous ne voyez pas de changement, alors faites un bilan de votre pratique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la pratique. Et ça veut dire que s'il n'y a pas de changement quant au facteur perturbateur, eh bien cela veut dire que la saisie est toujours aussi puissante, puisque les facteurs perturbateurs naissent à partir de la saisie. L'autre m'a regardé de travers, je saisis bien, et la perception et la sensation que ça fait naître dans mon esprit, eh bien de saisir cela, il y a immédiatement l'aversion voire la colère qui s'élève. Et si je continue de bien saisir, l'aversion va devenir tellement puissante dans mon esprit qu'elle va envahir mon esprit, et sous l'emprise de cette colère, eh bien, je vais avoir une attitude vis-à-vis de l'autre. Et si ce n'est pas par le corps, ça sera peut-être par la parole. Ça ne sera pas quand même très agréable. Et si j'arrive encore à contrôler la parole, et la pensée qui n'en passeront pas moins. Où est notre libération? Où est notre liberté dans cette façon de réagir? Nous sommes en état de réaction à ce moment-là. Mais ce n'est pas... Ce qu'il faut bien voir dans cet exemple, ce n'est pas le fait que l'autre m'insulte qui fait naître ça. C'est le fait de saisir l'insulte, de la retenir, de la cristalliser, de la solidifier. Et toute notre pratique méditative, telle qu'on l'a faite là tout à l'heure, eh bien c'est d'apprendre à, quel que soit le phénomène qui traverse l'esprit, je suis conscient de ce phénomène, c'est-à-dire que si l'autre m'insulte, j'entends très bien l'autre. Et je ressens très bien de façon désagréable que ça peut faire naître dans mon esprit. Mais ça, je suis conscient de ce phénomène, de cette réaction qui naît dans mon esprit. Mais je laisse passer. Et alors là, vous avez beaucoup de personnes qui pensent que si je laisse passer, eh bien je ne réponds pas. Je ne réponds pas à la situation. Si, je dois répondre à la situation. Mais je ne vais pas répondre sous l'emprise, par exemple, de l'aversion, de la colère. Donc mon attitude, elle sera tout à fait contrôlable, parce qu'elle sera non pas dictée par un facteur perturbateur, et elle sera ce qu'on appelle un acte juste, c'est-à-dire totalement libre. Or, la plupart du temps, quand nous agissons, eh bien, nous agissons parce que nous sommes sous l'emprise du désir, ou sous l'emprise de l'aversion, ou sous l'emprise de l'indifférence. Et comme disait un lama tibétain un jour, il nous disait, en fait, nous n'agissons jamais. Nous avons l'impression d'agir tout le temps, mais nous sommes, en fait, constamment en état de réaction. On agit parce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on s'en fout. Et en gros, eh bien, ce sont ces trois éléments qui guide nos actes. Alors, est-ce que nous voulons mettre un terme à cette façon de fonctionner, quoi? Et si nous voulons mettre un terme, si nous décidons de mettre un terme et donc de nous engager dans la voie, eh bien, pour transformer ce fonctionnement de l'esprit, cela ne va pas se passer comme ça en 8 jours parce qu'on le décide aujourd'hui. Notre esprit est formaté comme ça. Donc il va falloir le déformater, et ça va prendre du temps. Et puis ce déformatage, eh bien ça ne va pas se passer toujours de façon très agréable. D'où l'importance de la régularité. D'où l'importance aussi de retrouver cette motivation première. Comme disait le précédent Kalon Rinpoche, de retrouver cet esprit de débutant. Mais d'y revenir souvent, pas une fois tous les 6 mois. Le matin, quand on se réveille, on parle de la force la force de l'impulsion pour la bodhicitta, pour l'esprit d'éveil, mais c'est vraiment se dire, mais est-ce que je replace l'axe de ma journée dans cette motivation de travailler sur mon esprit? C'est un engagement qu'on doit renouveler en fait tous les matins. C'est comme ça que je vois l'engagement du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est pas l'engagement puisse tous les êtres être heureux, libres de la souffrance et des causes de la souffrance, et réaliser le bonheur et les causes du bonheur. C'est juste un souhait, ça. Et qu'est-ce que je fais concrètement pour ça? En quoi je dois modifier quelque chose dans mon attitude, dans mon comportement quotidien, eh bien pour que l'autre avec qui je vais entrer en relation, eh bien, je sois moins cause de souffrance et peut-être plus cause de bien-être, de bienveillance, et donc d'une forme de bonheur. Et nous n'allons peut-être pas pouvoir maintenir cette motivation à longueur de journée, d'accord ? Mais faisons des rappels. Faisons-nous des rappels. Des rappels sonores, des rappels visuels, je ne sais pas, à chacun de trouver le rappel qui lui convient, votre fond d'écran, votre montre qui sonne, un sticker sur le volant de votre voiture, sur le frigo, j'en sais rien, chaque fois que vous allez prendre quelque chose dans le frigo, pouf, rappel. Mais oui, ça, ce sont des rappels modernes. Pourquoi les chrétiens sonnent des cloches? Pourquoi les musulmans appellent à la prière? Pourquoi dans la communauté de l'Arche, toutes les heures, il y a la cloche qui sonne? Nous avons besoin de rappels pour entraîner encore et encore notre esprit de façon à ce que ça devienne bien une saine habitude pour notre esprit. Sinon, nous restons alors dans l'aspiration. Et alors, c'est comme ça qu'on devient les vieux routeurs du Dharma. C'est difficile, quoi. Ça demande un effort. Alors, j'aime bien le Dharma, mais je suis fatigué, quoi. Et alors, on en voit, hein. Comme ça. Ça demande... Dans les paramitas, vous avez Tsundru, qu'on traduit par persévérance. Mais Tsundru, littéralement, eh bien, c'est l'énergie enthousiaste. L'énergie joyeuse. C'est pas l'énergie, ouais, il faut que j'y aille, quoi. Hein? La contrainte, la corvée, quoi. Elle devient contrainte et corvée, cette énergie, si je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. Mais si je le comprends vraiment, eh bien, presque un plaisir. Enfin, il y a quelque chose de motivant dans cet entraînement de l'esprit. Donc la régularité est un point très important, et la Maïché on reparle de cette régularité. Et cette régularité, si vous pouvez vous asseoir tous les jours 20-30 minutes sur votre coussin, c'est très bien, parce que quand on s'assoit de cette façon-là, on rassemble les meilleures conditions pour pouvoir observer et faire ce travail-là sur notre esprit. Bien. Mais si vraiment vous traversez une période où vous avez un peu tendance à avoir la tête dans le guidon, les enfants sont malades, le boulot il y en a par-dessus la tête, et vous rentrez, vous êtes fatigué, etc., et vous vous dites je suis fatigué, je ne peux pas me trouver 30 minutes aujourd'hui. Ne vous dites pas à ce moment-là eh bien que vous ne pratiquez pas et que vous êtes un mauvais pratiquant et que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais, etc. Trouvez d'autres moyens de méditer. L'observation de l'esprit dans votre activité, c'est une méditation, c'est une pratique. Dès que vous avez un moment de tranquillité au volant de votre voiture, au lieu de mettre France Info avec des catastrophes toutes les 7 minutes, par exemple, hein, eh bien, ne mettez rien, et tout en conduisant, profitez de votre trajet pour vous dire « Comment est mon esprit ce matin ? Que se passe-t-il dans mon esprit ? Comment est-il ? Il est bien, tendu, pas tendu, bien disposé, plutôt stressé, etc. » Et prenez conscience de tous ces états-là, et de tout ce qui peut s'élever comme phénomène parce que vous avez mal dormi, parce que votre enfant est peut-être malade, parce que les résultats à l'école ne sont pas bons, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait naître comme phénomène dans votre esprit? Soyez conscient de tout ça et pratiquez. C'est-à-dire, je lâche, je laisse passer, je laisse passer. Je ne m'approche pas à ça. Je peux vous dire que Liliane, aujourd'hui, et j'ai vu qu'elle vraiment elle pratique, parce que dans ce drame qu'est la mort de son fils, Liliane me disait hier que si elle ne méditait pas, elle deviendrait folle, quoi. Parce que ce qui émerge dans son esprit, il faut qu'elle laisse passer. Hein. Alors elle ne laisse pas toujours passer, mais quelquefois, elle arrive à laisser passer. Et donc elle voit, eh bien, qu'à ce moment-là, son esprit retrouve une certaine sérénité, malgré cette situation. Et là, c'est plus de la parlotte, quoi. Là, c'est plus du dharma théorique, hein, qu'elle a lu dans tel texte ou qu'elle a entendu depuis 30 ans qu'elle est pratiquante. Là, elle pratique. Et je veux dire par là que ça fonctionne. Il y a une expérience qui, dans cette non-saisie, une expérience, eh bien, de libération. Même si ça ne dure qu'une minute, c'est une minute de libération. Et quand on fait cette expérience-là, eh bien, nous sommes convaincus que si nous avons la clé de la souffrance dans notre esprit, nous avons la clé de la libération. Et là, il n'y a plus de doute sur la voie. Il n'y a plus de temps perdu dans la voie. Vous avez vraiment envie de mettre à profit toutes les conditions qui sont les vôtres aujourd'hui, et qui vous permettent de pratiquer le dharma et de faire cette pratique sur votre esprit, cet entraînement sur l'esprit, parce que vous voyez mais que c'est la seule façon d'arriver à ce que le Bouddha a réalisé, ce que des maîtres aujourd'hui réalisent, et qu'ils passent leur temps et leur temps à nous redire et redire encore comment faire. Et là, notre pratique, alors, elle devient beaucoup, beaucoup plus facile, quoi. D'où l'importance de faire cette expérience de la saisie. Lama Yeshe insistait beaucoup sur le fait aussi de l'interdépendance de toutes choses. Quand on parle de la précieuse existence humaine, comme quoi il est urgent de faire ce travail-là sur notre esprit, parce que demain nous n'aurons peut-être pas ces conditions-là qui nous permettent ce soir de faire ce travail-là, nous le savons tous, on l'a tellement entendu. On est tous d'accord avec ça. Combien sommes-nous à l'avoir réalisé, à avoir intégré cette notion-là? Et nous sommes à peu près certains que ce soir, si nous avons les conditions de pratiquer le dharma, dans 6 mois, on va se revoir que nous aurons, eh bien, si nous le souhaitons, la possibilité de pratiquer le dharma. Eh bien, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Et ça, ce sont les circonstances actuelles qui nous permettent de pratiquer le dharma. Mais voyons aussi que ces circonstances actuelles, elles sont dépendantes d'une foule de conditions, d'une foule de circonstances qui ont été mises en place il y a 50 ans. Et parce qu'elles ont été mises en place par des Rinpoché, en tout cas pour le bouddhisme tibétain, par des Rinpoché qui avaient amplement l'âge de la retraite et l'âge de rester dans leur monastère, perclus de rhumatisme, d'arthrose, que toutes les personnes de leur âge, mais qui, par leur motivation, ont répondu à quelques hippies jointés qui allaient au Népal chercher tout à fait autre chose que la méditation, hein, mais qui leur ont demandé quand même de venir en Occident pour nous montrer, eh bien, le chemin. Leur motivation, leur bodhicitta, a fait qu'ils sont venus en Occident. Nous dépendons de ces gens-là. Nous dépendons de ces conditions-là si ce soir nous pouvons pratiquer le dharma. Il y a 50 ans, pour pratiquer le dharma, c'était nettement plus difficile. Je pense que dans le zen, c'était beaucoup plus difficile aussi. Il y avait beaucoup moins de dojos, beaucoup moins de maîtres qui sillonnaient la planète. Au siècle dernier, au Tibet, si vous aviez envie d'une instruction du dharma, ben, il fallait en avoir envie, hein. Il fallait vraiment avoir soif du dharma, parce que même si c'était dans un environnement complètement, entre guillemets, dharmique, Il fallait faire des jours et des nuits à cheval ou à pied pour aller chercher une instruction. Et pour montrer que cette instruction, elle nous était vraiment très précieuse, eh bien, il fallait que la personne, elle l'offre de l'or. Pour bien montrer que, oui, j'ai besoin de cette instruction. Aujourd'hui, c'est les Rinpoche hein, qui passent leur temps dans les avions. À venir à quelques kilomètres de chez nous, comme le Dalai Lama vient, je crois, le mois prochain ou au mois de novembre, je ne sais pas, le mois d'octobre. Comment ?
En février.
En février ?
Oui,
je crois que c'était avant. Qu'il vient à Bâle,
oui.
Malgré ses 80 ans. Bien. Eh bien, il y en a qui vont trouver que Bâle, c'est trop loin. Oui, mais ça, on entend, on le voit. Hein. C'est-à-dire, comment nous plaçons-nous par rapport au fait, par rapport aux conditions qui sont les nôtres, qui nous donnent la possibilité de pratiquer le dharma aujourd'hui. Comme je disais au début, mais personne ne nous oblige à pratiquer le dharma. Donc c'est un choix de notre part, quoi. Mais est-ce que nous considérons ces conditions-là extrêmement précieuses? Est-ce que nous leur accordons la valeur qu'elles doivent représenter pour nous? Alors quelqu'un, le week-end dernier, on discutait, pourquoi est-ce que c'est évident quand on est malade, il est évident pour nous de se soigner, même si le traitement est long, pénible, et peut-être coûteux, parce que la sécu n'existe pas dans tous les pays, hein, mais de toute façon il est coûteux. Mais pourquoi est-ce que on est d'emblée d'accord avec le fait de se soigner dès que ça ne va pas physiquement? Et qu'on est plus tiède, j'allais dire, avec le fait de soigner notre esprit. Et je crois qu'il y a une différence entre les deux, c'est que la santé est un état que nous connaissons. Nous savons comment nous sommes lorsqu'on est en bonne santé. Et donc lorsque nous sommes malades, c'est évident qu'on veut retrouver cet état de santé. L'état de Bouddha ou la libération, on ne le connaît pas. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'insiste tant sur le fait de faire cette expérience de la non-saisie. Parce que là, même si ça ne dure que ça, pendant ça, on peut le connaître. Mais cet état de Bouddha, ne le connaissant pas, on est obligé, je dirais, d'accorder notre confiance à ceux qui le connaissent. Mais ne le vivons pas, eh bien, après tout, on n'est pas si mal dans notre état de maladie spirituelle, si vous voulez. Et en fait, on ne connaît que ça. Nos références sont cet état d'ignorance, comme disent les textes. Et je pense que ça, c'est une différence assez nette avec le fait de recouvrer la santé quand notre santé est vacillante. Alors voilà, donc revenir à ces conditions-là, voir toutes ces conditions qui nous sont nécessaires pour pratiquer le dharma, voir aussi la discipline mentale, la maïché insiste sur cette discipline mentale. La discipline mentale, ce ne doit pas être une contrainte, mais c'est cette façon d'être, cet entraînement de l'esprit à faire en sorte que les facteurs perturbateurs, nous puissions vraiment les voir comme de la nature de dukkha. Il nous est facile de voir la colère comme étant vraiment de la souffrance pour nous-mêmes et pour autrui. Mais est-ce que tous les facteurs perturbateurs, nous les voyons de la nature de dukkha? Est-ce que vraiment nous voulons mettre un terme, par exemple, à cette avidité qui est puissante dans notre esprit? Est-ce que nous voyons que l'avidité, c'est un état de souffrance pour notre esprit? C'est beaucoup moins évident que de se dire, oui, l'aversion, la colère, la haine, c'est un état de souffrance. Parler à des gens non bouddhistes du désir et du non-désir dans le bouddhisme, vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. C'est immédiat, mais s'il n'y avait pas de désir, mais comment serait la vie? À quoi ressemblerait notre vie, quoi? Le désir est tellement fort dans le monde humain qu'il est vu comme un moteur de notre vie. On ne peut pas imaginer notre vie sans désirer constamment quelque chose de nouveau. Et c'est tellement puissant, eh bien, que ça nous est très difficile de voir que le désir est de la nature de dukkha. Et vous avez des professionnels qui, au lieu de parler du désir, parlent de besoin. Et il faut absolument, eh bien, créer le désir et entretenir le désir. Mais nous-mêmes, nous sommes dans ce mode de fonctionnement.
Je peux vous interrompre
dessus. Alors, juste à la fin, gardez votre question. Et puis, Et ça, c'est plus subtil, c'est plus difficile à percevoir cet état de dukkha dans le désir, en tout cas dans ce désir non satisfait, quoi. Dans l'indifférence, c'est assez difficile aussi, parce qu'après tout, on n'est pas trop mal, hein, quand on se sent pas concerné par la souffrance des autres, par exemple. Et on peut passer notre vie, vous savez, ça va bien pour moi, bon, bah, tout va bien, quoi. Mais est-ce que c'est ça le bonheur, quoi? Posez-vous la question en cet autre terme. Est-ce que je peux dire que dans cet état-là, eh bien, je suis vraiment heureux? C'est ce à quoi j'aspire. C'est quelque chose de très pragmatique, le dharma. J'aspire au bonheur. C'est quoi le bonheur? On s'était vu. Est-ce qu'on s'était rencontré à mon retour de Berlin quand je suis allé voir le Karmapa? Je ne me souviens plus. Hein, quand la première conférence que le Karmapa a donnée à Berlin, c'était le bonheur et le sens de la vie. Et ce qui nous avait frappé, c'est que le Karmapa s'était présenté vraiment sous un aspect extrêmement humain. Et forcément, il est humain, même s'il est le Karmapa, quoi. Mais on a tellement la vision de mettre le Dalai Lama ou le Karmapa sur... comme si c'était des êtres, comme si un Bouddha n'était pas un humain, quoi. Et il nous a dit, le bonheur en tant que sensation, tel qu'on le conçoit dans notre vie ordinaire, moi j'ai cessé à ce moment-là d'être heureux à l'âge de 7 ans. Il a commencé sa conférence comme ça. À partir du moment où j'ai été reconnu comme le Karmapa, on m'a retiré de tous mes petits copains de mon âge. On m'a retiré de mes parents. Je n'ai été élevé que par des vieux moines dans mon entourage, qui étaient constamment en train de me surveiller. Il dit, j'allais me coucher, j'étais le Karmapa, je me levais, j'étais Karmapa, je mangeais, j'étais Karmapa, j'enseignais, j'étais Karmapa, j'étudiais, j'étais Karmapa, j'allais aux toilettes, j'étais Karmapa, j'étais tout le temps Karmapa dans absolument toute ma vie, quoi. Enfin, dans tout le déroulement de mon existence. Et il disait, par contre, en tant que Karmapa, eh bien, dans mon activité, lorsque je vois le bonheur que ça peut occasionner dans les yeux d'autrui, alors là, je suis absolument heureux, foncièrement heureux. Et ça, c'est le sens de ma vie, disait-il. Donc en fait, on voyait chez lui que son bonheur, c'était vraiment un bonheur de bodhisattva. Moi, je disais ça, je ne sais plus. Perdu le fil. Mais... Non, oui, pour en revenir à ces facteurs perturbateurs tels que l'indifférence ou le désir, l'attachement. Est-ce que l'attachement, ce n'est pas cause de souffrance? Alors, on imagine que si nous nous libérons de l'attachement, du désir, etc., nous n'allons plus aimer. Nous n'allons plus éprouver un sentiment d'amour, ou un sentiment de compassion, et que l'on va devenir une espèce d'être qui ne ressent absolument plus rien. Pas du tout, bien au contraire. Là encore, c'est une expérience à faire. Est-ce que les facteurs perturbateurs n'empêchent pas le développement des qualités d'amour, de compassion et de bienveillance? Tous les textes nous disent ça. Tous les textes nous disent que lorsqu'il y a saisie, il y a impossibilité à ces qualités-là de se développer. Et c'est lorsqu'il n'y a pas de saisie que ces qualités peuvent se développer de façon vaste et équanime. C'est les termes. Est-ce que nous sommes sûrs ça, de ça? Est-ce que nous faisons vraiment l'expérience de ça? Nous devons expérimenter, nous devons faire l'expérience de ce que disent les textes. Notre pratique doit faire l'expérience de ce que disent les textes. Il n'y a pas à croire les textes, il n'y a pas à ce que les textes authentifient notre expérience, c'est notre expérience qui doit authentifier les textes. Donc faites en sorte que votre pratique comprenne le fonctionnement de l'esprit et que elle entraîne, que votre pratique puisse entraîner une modification de ce fonctionnement, et faites l'expérience que cette modification du fonctionnement de votre esprit permet davantage de bonheur pour vous et pour autrui. Et alors là, eh bien, vous pourrez dire, ouais, je commence à vraiment croire, à vraiment avoir confiance dans ce que le Bouddha a enseigné. Mais faites en sorte que votre pratique aboutisse à cela, quoi. Parce que là, eh bien, on comprendra vraiment pourquoi on médite. Et vous vouliez dire? Vous posez une question?
C'était que sur le mot désir. Parce que je me demandais dans quel sens exactement vous l'entendez, quoi. Quand vous dites désir, on ne peut pas dire que ça soit en soi quelque chose de mauvais. Je ne dis pas être avide et vouloir à tout prix, mais bon, c'est quand même quelque part un moteur aussi d'avoir envie de faire ci ou de faire ça.
Oui.
C'est un peu compliqué, quoi, pour moi. Ce que je veux dire.
Désir, ça veut dire. C'est lié à l'attachement. En tibétain, c'est un seul mot, de chak. C'est-à-dire que c'est vraiment désir-attachement. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas ça, alors possession, réappropriation,
ouais.
Renouvellement de l'expérience agréable, par exemple, quand il n'y a pas cet objet qui procure le plaisir, est-ce qu'il y a frustration dans mon esprit? Est-ce qu'il y a manque? Et parce qu'il y a frustration, parce qu'il y a manque, donc parce qu'il y a attachement à l'expérience qui a été et qui a disparu, eh bien, j'aspire à renouveler cette expérience. Et là, il y a donc crispation. Si l'objet n'est plus là, eh bien, on va le retrouver ou en retrouver un autre, jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau satisfaction de ce plaisir. Le plaisir, dans le dharma, n'est absolument pas négatif. Les maîtres apprécient, ont du plaisir, etc. Mais il n'y a pas attachement à ce plaisir. Donc s'il y a cet objet-là, il l'apprécie, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas frustration dans leur esprit. Il n'y a pas état de manque. Ils sont totalement libres.
Oui, c'est ça. Un plaisir vertueux tel que la joie. J'ai jamais vu un lama ou un moine bouddhiste qui n'est pas content, quoi, qui fait la tronche.
Il y a plein de moines qui font la tronche.
C'est vrai. Je l'associe à être joyeux, quoi. Ouais. Je sais pas, être content, mais happy.
Tous les maîtres sont joyeux.
Ouais.
Oui, ça c'est vrai.
Ouais.
En tout cas, alors chez les Tibétains, franchement, ils sont tous... ils sont plutôt rayonnants de joie. Hein. Écoutez, la joie, c'est un des quatre bras de Chenrezig. Hein. Il y a l'amour, la compassion, l'équanimité, mais il y a la joie aussi. Hein. Et ça, alors, pour moi, c'est un critère. Hein. Un grand pratiquant bouddhiste qui tire une tronche comme ça, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais la joie... Oui, parce que dans la non-saisie, eh bien, il y a cette paix d'esprit, quoi. Et cette paix d'esprit, elle est joie. Il y a de la joie dans cette paix d'esprit. C'est pas un état... Je suis heureux.
J'entendais une...
Une petite interview de Mathieu Ricard ce matin sur Internet, sur Radio TV Canada, quelque chose comme ça, une TV canadienne. Et il sera présent en octobre à Strasbourg.
Ah oui, ah là, c'est lui en octobre.
Oui, le 19. Et, non, le 19.
Et il disait méditer, pour compléter un peu l'enseignement du déchet, méditer, c'est développer l'amour altruiste. Hein. Et oui. Parce que il disait que finalement, concentrer son attention sur la respiration, l'inspirer, l'expirer, c'est individuellement accessible à tout le monde. Mais développer dans la méditation l'amour altruiste, c'est plus compliqué, disait-il. Hein. Et ça m'a fait un peu réfléchir, quoi.
Mais les deux bodhicitta, elles ne peuvent pas s'élever l'une sans l'autre. Vous avez la bodhicitta relative, l'amour, la compassion, l'attention, l'activité altruiste, d'accord. Elle ne peut pas s'élever sans la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la non-saisie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait qu'il faut vraiment que nous fassions l'expérience de, que la saisie, eh bien, ça empêche le développement des qualités. On prend toujours cet exemple que les deux aspects de la bodhicitta, la relative et l'ultime, ce sont comme les deux ailes d'un oiseau. On a besoin des deux. Mais les deux ne peuvent pas s'élever l'une sans que l'autre s'élève. C'est-à-dire que la pratique de la bodhicitta relative, ça permet à la saisie égotique de diminuer. Alors, vous avez des personnes qui vont mettre l'accent davantage sur la bodhicitta relative. Bon. Mais vous avez d'autres personnes qui vont mettre l'accent davantage sur la bodhicitta ultime. C'est-à-dire travailler plus principalement sur eh bien, la non-saisie. Mais leur qualité, plus cette non-saisie va se développer, mais plus leur qualité se développe. Il n'y a même pas à faire un effort pour que ça se développe. C'est naturel, ça se développe comme ça. Vous ressentez plus d'amour, plus d'ouverture, plus de bienveillance, plus d'attention, plus d'écoute, plus de joie. Oui. Ouais. Les deux se développent en même temps. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui vous dit qu'il a réalisé l'éveil, donc le bodhicitta ultime, hein, notamment, et puis chez qui vous ne sentez pas un rayonnement d'attention, de bienveillance, etc., mais il n'a rien réalisé du tout, quoi. Et c'est ce que l'on sent quand on est auprès d'un Rinpoche. Il y a ce rayonnement d'amour, de compassion, mais vaste. Et puis surtout équanime, pas seulement pour ceux qui sont sympas avec lui, ceux qu'il connaissent depuis des années, etc. On sent que c'est vaste, que c'est équanime. Et bien ça montre que la bodhicitta ultime chez eux, eh bien, elle est réalisée aussi. Il n'y a plus d'emprise, il n'y a plus de saisie.
Je vous écoute là depuis une heure ou deux, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une saisie, mais je sais que c'est pour mieux pratiquer après. Enfin, pour que... Mais à la base, je vous écoute... Mes deux oreilles, il y a aussi une. On pourrait qualifier ça de saisie.
Pourquoi ?
Non, c'est une entorse.
Pourquoi ce ne serait pas une saisie Parce que j'écoute, je vous écoute, je bois vos paroles et.
Bon. Mais le fait d'écouter, pour vous, c'est synonyme d'une saisie ?
Bien oui, parce que je suis votre fil d'argumentation et tout ça, je vous suis.
Non. À mon avis, là, vous confondez prendre conscience de quelque chose et saisir. Ça, par exemple, c'est comme dans la méditation, lorsque vous prenez conscience de la présence d'une pensée, eh bien, ce n'est pas synonyme que vous êtes en train de la saisir. Prendre conscience de quelque chose n'est pas synonyme de saisir. La saisie, c'est un mouvement de l'esprit qui se fixe sur ce dont vous êtes en train de prendre conscience. Prendre conscience, c'est l'aspect connaissance de l'esprit. Il connaît, il sait que, tiens, il y a une pensée, voilà. Saisir, c'est je la maintiens, je la... Non, non, c'est pas synonyme.
Est-ce que ça veut pouvoir peut-être dire dans le sens que si elle a saisi, ce serait plutôt alors dans ce cas-là, si on écoute le Dharma, s'il y a compréhension, il n'y a pas de saisie parce que c'est automatique. Mais si on juge, on n'est pas d'accord, on dit ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas, c'est peut-être ça la saisie aussi.
Il y a, je ne sais plus quel est le Rinpoche qui définissait la saisie par le terme de, d'appropriation. On s'approprie la chose. En fait, on la laisse. Cette chose, ce phénomène, on ne le laisse pas libre, on ne le laisse pas passer. Et de toute façon, un phénomène, on ne peut pas le saisir. C'est contre nature de vouloir le saisir. Parce qu'un phénomène, ce n'est que du mouvement. Martine.
Pour revenir au désir, c'est quand même enfin, quelque chose de très complexe et très fort, et que moi je comprends. C'est pas réprimé, mais la formidable énergie désirante qu'il y a là-dessous, on peut la, comment dire, la réorienter, la transformer vers un but altruiste, et c'est encore du désir, mais qui est transformé.
Alors à ce moment-là, c'est...
Il y a une énergie incroyable dans le désir.
Oui. Oui, bien sûr.
Le dynamisme, vous parliez au début là, à propos de la persévérance, vous disiez de l'enthousiasme.
Oui, l'énergie enthousiaste.
Ah, la motivation.
Mmh. Oui, oui. Et notre motivation, le fait de suivre la voie, etc. Il y a du désir là-dedans. Et on utilise ce désir-là. Mais dans le désir, il y a cette énergie extrêmement puissante et qui se transforme quand il n'y a plus de saisie. Et cette énergie, elle est toujours là. En quoi elle se transforme? En ce que les Tibétains appellent trinle, c'est-à-dire l'activité éveillée, une activité spontanée. C'est-à-dire que cette énergie, elle est mise, oui, au service des autres. Elle est...
Voilà. Purifiée.
Voilà. Alors, bien sûr que tant que nous n'avons pas réalisé l'éveil, la saisie est encore là. Donc, cette activité altruiste, cette activité éveillée, eh bien, il y a une forme de saisie dedans. Oui, ben oui. Mais ça, c'est... Tant que nous serons sur le chemin, il y aura une forme de saisie encore. Hein. Mais, surtout, là, ce qui est important dans le sujet de ce soir, c'est de bien voir en quoi la saisie, dans notre esprit, c'est la saisie qui fait naître dukkha, qui fait naître la souffrance dans notre esprit. Et que donc, s'il n'y a pas saisie, il y a libération de la souffrance. Et ça rejoint en fait les quatre nobles vérités. Nous expérimentons dukkha, chercher la cause de dukkha, donc ça c'est la saisie, faire l'expérience de la non-saisie, et on voit que dukkha qui était présent dans mon esprit, si je ne saisis plus, immédiatement, il y a cessation de dukkha. Ça, c'est la troisième noble vérité. Et ensuite, c'est s'asseoir sur le coussin, c'est-à-dire la méthode pour ne pas saisir. Et ça, c'est la quatrième noble vérité, le chemin.
Vous expliquez souvent dans les séminaires qu'en fait, on n'est pas obligé de saisir si on en prend conscience, mais qu'on peut juste regarder, laisser passer, et c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps.
Et ça, ce n'est pas l'équivalent de saisir.
Ça ne nous fait pas souffrir.
Oui, tout à fait. Ça, c'est ce que vous décrivez, c'est la différence entre être conscient de ce qui se passe et saisir. Mmh. Être conscient n'est pas synonyme de saisir. Tout à fait. Un Rinpoche, par exemple, eh bien, il est conscient de tout ce qui se passe dans son esprit. Il a des pensées, il a des sensations, des perceptions. Son esprit fonctionne comme un autre. Il ressent les choses, il voit les choses, il entend, il aime, il a du plaisir, je veux dire, etc. Mais ce qui a disparu dans le fonctionnement de son esprit, c'est cette saisie. Donc il est conscient de tout ce qui se passe, mais ça passe, justement, ça passe. Donc il y a une très grande liberté, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça la libération. Alors voilà, il faut s'entraîner. Mais j'insiste là-dessus, il ne faut pas s'entraîner simplement en se disant « parce que je m'entraîne, alors ça va faire naître la non-saisie ». La non-saisie, c'est là, dans l'instant présent. C'est qu'est-ce qui se passe là, maintenant ? Ce qui se passe, est-ce que je saisis ou pas ? C'est tout. C'est ça notre pratique, c'est ça l'expérience. Elle ne peut se faire que là, tout de suite, ici, maintenant. Si par exemple, dans votre pratique, vous avez bien saisi pendant 10 minutes et que vous êtes fait un film, hein, comme quelquefois ça arrive, voilà, ne vous dites pas au bout de 10 minutes, ouais, je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Ça vaut le coup, hein, après 20 ans de pratique, je suis toujours là en train de saisir, voilà, je viens de me faire 10 minutes de saisie, etc. Là, vous êtes accroché, vous êtes en train de saisir ce qui ne peut plus être saisi puisque c'est déjà passé et terminé. Laissez tomber tout ça. Par contre, à ce moment-là, c'est « mais que se passe-t-il dans mon esprit là, maintenant, tout de suite là ?» Et ne vivez que l'instant présent. Ce qui est fini, c'est fini, pas besoin d'y revenir. Et puis, ce qui se passera là tout à l'heure, mais vous le verrez quand ça se passera. Et quand ça se passera, ça sera dans l'instant présent. Notre pratique, ça se résume à ça. Dans l'instant présent, est-ce que je saisis ou pas, je souffre ou pas, je suis dans le samsara ou dans le nirvana ? C'est dans l'instant présent que ça peut se produire, uniquement, uniquement. Voilà. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous.
Merci à toi. Deux, trois petites choses.